Alors, lundi prochain, 7 mars, commencera à Toulouse cette 8e édition du Festival Ciné-Palestine, festival de cinéma qui croise les regards sur l'histoire de la Palestine, mais aussi sur l'actualité sociale palestinienne. Et on est là, du coup, pour en parler pendant 1 heure, pour parler un petit peu de cette actualité du cinéma palestinien, mais aussi de plus précisément cette rencontre là qui durera 1 semaine. Samir Arabi, bonjour.
Bonjour.
Du coup, on peut se tutoyer en fait
On
ou,
peut, on peut.
voilà. Toi, tu fais partie des organisateurs depuis le début, depuis la fondation de ce festival là, il y a
Tout
8 ans.
à fait, tout à fait.
Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment ça s'est créé, ce festival? C'était quoi les énergies, peut-être les associations collectives qui faisaient partie de ce projet-là?
Alors, on a démarré en 2012, à vrai dire. On souhaitait à l'époque rendre, on a organisé un événement poétique pour rendre hommage au grand poète palestinien Mahmoud Darwish. Alors, on était ravis parce que ça fonctionnait, ça réussit, ça marchait, on n'était pas sûr. Et puis, on s'est dit, on va se lancer dans le secteur du cinéma. C'était en 2014 où l'équipe a lancé donc la première édition de Ciné Palestine dans les pas des cinéastes palestiniens. Donc, on s'est lancé dans l'aventure. On ne savait pas du tout si ça allait fonctionner parce que l'ambition était, et reste toujours, de mettre en lumière le cinéma palestinien, les cinéastes palestiniens et surtout le cinéma qu'on n'a pas l'occasion de voir. Parce qu'il y a des films distribués en France ou qui sont programmés dans les salles de cinéma, mais il y a beaucoup de films qui ne sont pas programmés, qui ne sont pas distribués en France et qu'on ne peut pas voir. Donc voilà l'ambition en 2014. C'était une aventure. On se dit, on se casse la figure où ça marche. Par bonheur, ça marchait. Et on s'est dit, il faut continuer. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 8e édition. On a eu des moments difficiles, notamment en 2015, puis on a réussi à traverser les difficultés. Et aujourd'hui, on est ravis de continuer à exister, à continuer à proposer au public toulousain des films palestiniens et des films sur la Palestine.
Ouais. Et peut-être avant de rentrer un petit peu dans le vif de la programmation, tu m'entends?
Je vous entends à peine, mais je vous entends quand même.
D'accord. Avant de rentrer dans la programmation, moi, il y avait une question que je me posais parce que le cinéma palestinien, c'est quand même un cinéma qui est ultra prolifique. Il y a beaucoup de films, il y a une tradition aussi en fait cinématographique en Palestine. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu c'est quoi le contexte, c'est quoi l'histoire de ce cinéma palestinien, comment ça se fait qu'il y a cette tradition cinématographique et qu'il y a un tel investissement en fait de ce support-là pour raconter l'histoire de la Palestine, mais aussi enfin la vie de la Palest des Palestiniens et des Palestiniennes.
Question vaste qui prend lui-même 1 heure, mais je vais tenter quand même de répondre. À vrai dire, je vais tenter de répondre en me basant aussi sur le programme de la 8e édition. Alors, j'invite le public à venir voir donc le film Réminiscence, qui est programmé donc Cosmographe, à l'American Cosmographe. C'est le film d'ouverture, justement parce que c'est un film qui va. Il y a un regard sur le passé, sur la ville de Haïfa et comment. Sur l'histoire de cette ville. Comment il y avait une activité dans les années, nous étions dans les années 30, 40, comment il y avait une activité absolument exceptionnelle dans cette ville. Alors, je prends ça comme un point de départ pour dire qu'en Palestine, il y avait un mouvement culturel, un mouvement cinématographique très intéressant. Et ça, vous pouvez le voir à travers ce film, voilà, que je viens de citer. Et bien, on tombe un petit peu dans l'image noire avec 48, tout s'arrête, tout devient figé. Et après, il faut attendre un certain temps, il faut attendre l'émergence de la résistance palestinienne. Et là, on assiste à un cinéma militant qui cherche un petit peu à expliquer au monde entier la cause des Palestiniens, qui était méconnue.
Et du coup, là, quand tu parles de ce cinéma militant, ça prend quelle forme? Ils utilisent le documentaire, la fiction? C'est quoi? Qu'est-ce qui est utilisé pour faire passer ce message-là, justement? J'imagine les années 70, tu parles des années
Voilà, je parle des années
60-70?
70. C'est principalement le documentaire. Et à l'époque, donc, c'était des cinéastes militants. et qui travaillaient parfois avec de matériel lourd, qui, pour certains, ont payé de leur vie leur engagement. Donc c'était, et je cite un exemple, le film, il y a quelques années, on l'a présenté, intitulé tout simplement « Il n'existe pas », parce que c'était une réponse à une responsable israélienne qui a déclaré « Mais les Palestiniens n'existent pas ». Donc le film va un petit peu montrer qu'ils existent, qu'ils sont là, qu'ils mènent leur combat pour leur liberté. Donc nous sommes dans la configuration de l'émergence de la résistance palestinienne et des films menés par des cinéastes pour un petit peu raconter l'histoire du pays et raconter l'histoire surtout de la résistance armée de cette époque-là. Plus tard, dans les années 80, on va assister petit à petit à l'émergence des cinéastes qui vont aborder la question palestinienne autrement, qui vont raconter l'histoire et qui vont faire des véritables fictions. Et là, on commence à voir, notamment avec le grand cinéaste palestinien Michel Khalifi. Michel Khalifi, Hani Abu Assad, Rachid Mashraoui, qui est l'invité de notre 8e édition. Il sera avec nous le dimanche 13 mars, parce que le film Réminiscence de Rachid Mashraoui, qu'on va avoir le privilège, il va être projeté pour la première fois en France. Donc il viendra lui-même pour dialoguer avec le public le dimanche 13 mars à Utopia Tournefeuille. Alors, donc, il y avait cette nouvelle génération qui abordait, qui, je dirais, se penchait davantage sur le côté esthétique. On fait du cinéma, on est un petit peu sorti de la configuration propagande politique, entre guillemets, même si la propagande politique peut avoir un sens noble. Donc, on est sorti de cette configuration pour faire carrément du cinéma, tout en racontant l'histoire de la Palestine, cette génération-là. Alors, après, le cinéma va se développer avec la nouvelle génération à un rythme très rapide, surtout, je dirais, à partir de l'an 2000, pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, vous pouvez, avec du matériel simple, filmer. Si vous avez un peu de talent, vous pouvez, avec les logiciels simples, faire votre montage, etc. etc. Donc là, il y a eu un développement vraiment extraordinaire de ce cinéma. Et en même temps, il y a eu aussi l'émergence des structures de formation. Parce que là, il ne suffit pas de vouloir. Il y a quand même une technicité, il y a un apprentissage qui doit se faire. Et là, par exemple, je ne cite qu'un exemple, l'université d'Al-Kalima à Bethléem, qui forme les jeunes gens à l'audiovisuel et qu'on a eu, nous, le plaisir d'inviter à plusieurs reprises. Et je citerai juste un exemple. Il y a un jeune de cette université, son film a été, il y a 2 ans, 3 ans, a été sélectionné au Festival de Cannes, rien que ça. Il s'appelle Ambiance, un film d'une extrême simplicité, mais qui dit beaucoup de choses sur les conditions de vie dans les camps. Et ce film a été présenté dans beaucoup de festivals. Donc ça, c'est pour vous dire rapidement un petit peu comment ce cinéma s'est développé. Et c'est moi, je suis fasciné par la présence de ce cinéma sur la scène mondiale. Parce que voilà un petit pays, un tout petit. Voilà un pays qui n'a pas d'État. Il y a une autorité qui, malheureusement, n'a pas beaucoup d'autorité, mais il n'y a pas d'État. Lorsqu'on dit qu'il n'y a pas d'État, donc il n'y a pas de structure pour soutenir un secteur comme le cinéma. Et voilà des cinéastes palestiniens à Gaza, en Cisjordanie et ailleurs, qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup d'imagination et qui arrivent à présenter une production cinématographique riche et variée, avec des regards très différents. Je trouve ça exceptionnel parce que, pour citer un exemple, lorsqu'on regarde les pays voisins, la Syrie ou la Jordanie ou le Liban, c'est des pays qui n'ont pas réussi à émerger avec leur cinéma sur la scène internationale. Alors, c'est des pays qui ont leur État, leur ministre de la Culture, leur financement, etc. etc. Voilà.
Et peut-être dernière question avant de passer plus à la programmation, mais... C'est qui les réalisateurs, réalisatrices palestiniens aujourd'hui? Justement, je me demandais un petit peu si on devait faire un petit portrait, est-ce que c'est au niveau du genre, de est-ce que par exemple, voilà, il y a beaucoup de jeunes, est-ce que c'est plus des gens qui ont un certain âge, plus installés, est-ce que c'est des parmi les gens, parmi les films qui vont être diffusés, est-ce que là c'est beaucoup des réalisateurs qui vivent en Palestine ou bien ce sont des personnes qui vivent au Liban, en Syrie, en Jordanie, ou ailleurs, ou en Europe.
Voilà. Bon, il n'y a pas de portrait, il y aurait des portraits. Comme vous le savez, le cinéma palestinien est à l'image du peuple palestinien. C'est un peuple qui a été dispersé après 1948. Les Palestiniens, il y a les Palestiniens qui vivent, qui sont restés en Palestine. Mais il y a ceux qui sont partis, qui étaient contraints à l'exil, qui sont partis en Jordanie, au Liban, en Syrie et ailleurs. Il n'y a pas un portrait du cinéaste palestinien, il y a des portraits. Par exemple, Michel Léfi, il est né à Nazareth, mais par la suite, il est parti, il est installé en Belgique. Mais il est natif de Nazareth, c'est là où il a tourné son film, son premier film, son premier long métrage. Mais je peux aussi, un autre portrait, là, un film que nous avons beaucoup, vraiment, on a le plaisir de le programmer dans la région toulousaine, parce que Ciné-Palestine, c'est pas seulement Toulouse. D'ailleurs, ça s'appelle Ciné-Palestine Toulouse-Occitanie. Donc, on va à Figeac, on va à Bressols, on va à Albi, on va à Auch, etc. Donc, on a eu le plaisir à programmer le film Little Palestine, le journal d'un siège. Un documentaire très fort qui nous a bouleversés lorsqu'on l'a présenté en avant-première à l'American Cosmographe à Toulouse. C'est un jeune qui est né en Syrie, dans un camp de réfugiés en Syrie qui s'appelle Yarmouk. Il a grandi dans ce camp. Alors, si vous permettez, je vais parler juste une minute sur ce jeune homme-là. Donc, il s'appelle Abdallah Al-Khatib. Donc, il est né dans ce camp de réfugiés palestiniens. Proche de Damas. Alors, là aussi, lorsqu'on parle des cinéastes, c'est important de souligner que pour certains, notamment pour lui, lorsque la révolution syrienne a éclaté en Syrie, il y avait des jeunes Palestiniens et des jeunes Syriens qui ne savaient rien de cinéma. Lui, il était étudiant en sociologie. Donc, à un moment donné, un ami à lui donne la caméra en disant « Débrouille-toi ». Donc, il était contraint, parce qu'il était d'ailleurs à Yarmouk qui était assiégé, plus d'études de sociologie. Il a pris la caméra, il s'est mis à filmer avec, ça c'est, j'aimerais le souligner, avec aussi l'obsession de documenter. Parce qu'il y a des pages tragiques dans l'histoire de la Palestine et on n'a pas de traces. Et là, son objectif était filmer, 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 filmer. Parce qu'il faut laisser un document pour l'histoire, pour ne pas laisser les gens dire on ne savait pas. Là, l'image était là, et d'ailleurs avec l'intuition, finalement, il a fait un travail qui est excellent du point de vue cinématographique. Évidemment, ce film, le monteur probablement a fait un excellent travail parce que
Il
si
va y
vous faites
avoir
des
du
rushs,
rush et du rush,
etc.,
quoi.
faire après un montage. Donc c'était juste pour le portrait de quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas là, qui n'est pas né, je veux dire, en Palestine, mais qui.
Et du coup, le journal d'un siège, Little Palestine, ce sera diffusé mercredi 9 mars à 20h30, mais aussi vendredi 11 mars et à Albi le 14 mars. Je propose de faire une petite pause musicale avant de se retrouver juste après.
Thank you.
Sud 92.2 et jusqu'à 13h dans le magazine, on parle du festival de cinéma Ciné Palestine qui commencera à Toulouse et en Occitanie le 7 mars prochain et voilà qui se déplacera un petit peu dans la région pour donner à voir justement des films sélectionnés sur des films réalisés par des cinéastes palestiniens, palestiniennes. Alors là dans le programme de cette 8e édition, il y a plusieurs thèmes qui ressortent. Moi j'ai l'impression... Alors, on n'aura peut-être pas le temps de parler de tout. Moi, j'ai noté un petit peu des histoires en lien avec la famille qui est aussi à la fois un théâtre et un thème par lequel on va aborder la vie quotidienne, la violence de la colonisation. Voilà, il y a la famille, il y a la mémoire, l'histoire, la transmission, et tu as commencé à en parler sur... sur le rôle du cinéma dans la transmission de l'histoire tragique, mais aussi l'histoire de résistance palestinienne. et la prison, l'enfermement aussi qu'on retrouve évidemment dans pas mal de films. Et enfin, le féminisme et la parole des femmes, le combat des femmes dans cette histoire. Ouais, peut-être je me posais la question sur la famille en fait palestinienne et le rôle qu'elle joue dans cette société, on va dire. Touchée par le conflit, l'oppression, quelle est la place, toi, peut-être à travers justement les films que tu as vus, comment est représentée la famille dans ce cinéma palestinien?
Alors, la famille palestinienne est comme toutes les familles, donc on trouve par exemple dans le film La Juge la solidarité autour de cette femme qui veut, contre la société traditionnelle, devenir juge. C'est l'ambition, donc ce jeu de solidarité. Mais on trouve aussi dans 200 mètres, qui est un film remarquable, qui est programmé au Cratère le lundi 14 mars, on trouve aussi ce déchirement entre une partie de la famille qui peut vivre en Israël et l'autre partie, notamment le mari, qui vit de l'autre côté. Ils sont à 200 mètres, il y a le mur. Ce type de situation ne peut que provoquer des tensions. On voit aussi comment la vie de famille peut être perturbée. Là, il y a le film The Present, le cadeau, le film de Farah Naboulsi, qui voit comment un geste simple, vouloir offrir un cadeau à sa femme le jour de son anniversaire, se transforme en cauchemar, parce qu'il faut traverser un checkpoint. Donc la famille palestinienne est traversée par tout ça à la fois, cette solidarité.
L'invitation au mariage.
Ah, l'invitation au mariage, oui, c'est, vous faites bien de me rappeler de l'invitation au mariage, qui aussi représente toute la contradiction entre le père qui était contraint de vivre là où... et le fils qui est parti et qui a un regard sévère. En disant, toi, tu veux inviter au mariage de ma sœur ton collègue au lycée qui est juif, et moi, je ne veux pas juste ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a deux générations qui vont s'affronter sur le combat à mener, finalement, dans ce film-là. Donc, il y a cette contradiction qui est là, qui est flagrante au sein de la famille, et qui est menée remarquablement dans ce film, L'invitation au mariage. Et donc, c'est une cinéaste, Amar Jassir, qui fait partie de la génération montante qui a fait trois excellents films, donc Le sel de la mer. Donc, c'est le retour au pays avec les difficultés de récupérer l'héritage de la famille. Et Quand je t'ai vu, de l'époque de combats militants menés, le combat armé. Et ça, c'est son dernier film, L'invitation au mariage, qu'on aura du plaisir à présenter après ça. Pour revenir au thème qu'aborde la 8e édition, il y a un rendez-vous exceptionnel à la Cinémathèque de Toulouse qui nous accueille le vendredi 11 et le samedi 12 avec le grand cinéaste Raed Andoni. Là, on est dans l'environnement carcéral. Donc Raed Andoni, dans son film Fix Me, qui sera donc présenté le samedi 12 à la Cinémathèque.
Tu peux répéter le nom du film, pardon ?
Pardon ?
Pardon, le nom du film ?
Fix Me. Alors, le film part de malaise de l'ancien militant, de lui-même d'ailleurs, de cinéaste, qui était militant, qui a été emprisonné, qui a des maux de tête, qui va voir son psy et qui va filmer sa thérapie. Et sa mère qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais actuellement ? Je fais un film. Pourquoi tu fais un film ? Parce que j'ai un mot de tête, à vrai dire, des mots de tête. À vrai dire, l'histoire est beaucoup plus riche que ça. Pas seulement des mots de tête. Il y a ce prisonnier qui vit une situation post-libération qui est délicate. Et à la fin du film, donc, il va chercher ses anciens co-détenus, les anciens prisonniers qui étaient avec lui, ce qui va déclencher le deuxième film, qui s'appelle Ghost Hunting, qu'on va présenter le vendredi, qui est un film remarquable parce que les prisonniers vont construire des structures qui ressemblent aux prisons où ils ont vécu. Et là, ils sont pas comédiens, ils jouent leur propre rôle. Il y a un seul comédien dans ce film. Il y a un seul comédien. Et ils vont jouer donc leur histoire, ils vont reproduire leur histoire avec ces moments difficiles, ces moments douloureux. Parce que, comme vous le savez, un prisonnier...
Et ils jouent les gardiens aussi.
Pardon ?
Et c'est eux qui jouent les gardiens aussi.
Voilà. Donc, un ancien prisonnier ne raconte jamais cette période lorsqu'il a été en prison. Parce que c'est une période généralement douloureuse, humiliante, etc., etc. Donc, c'est un film remarquable qui a eu beaucoup de prix. Et Raed Andoni sera avec nous. Donc, la projection sera précédée par une rencontre à la Cinémathèque où il parlera de son cinéma. Et je n'oublierai pas quand même le samedi soir, le film d'Oumaï Masri, qui est une cinéaste qui a fait beaucoup de documentaires. Et là, c'est 3000 nuits. C'est l'histoire d'une prisonnière. Alors, peut-être je fais une entre-parenthèse pour dire on est... Le cinéma palestinien, alors une fois la dépêche a titré « Ciné Palestine aime les femmes », le titre n'est pas terrible, mais en tout cas, il voulait dire que dans nos différentes éditions, il y a autant de cinéastes femmes que de cinéastes hommes. C'est pas quelque chose qui est recherché par nous, c'est parce qu'il y a beaucoup de cinéastes femmes qui ont beaucoup de talent, qui s'imposent sur la scène palestinienne et à l'extérieur.
Et justement, sur ce thème de l'incarcération, l'enfermement, il y a aussi un film belge de 24 minutes qui s'appelle Zamara. C'est un documentaire qui filme en fait des jeunes hommes qui vivent dans le camp de Déchets
oui.
En Palestine et qui vont chercher leur ami qui sort de prison. Donc
tout
là, on
fait.
Est aussi sur du documentaire.
Et le cinéaste sera là.
Okay.
Donc,
c'est quand ça ?
Arthur Michel sera là avec nous et ça sera le samedi donc 12 à l'ENSAV. Alors peut-être j'ouvre une entre parenthèse si vous permettez. Nous sommes fiers à Ciné Palestine parce que de proposer au public la moitié des projections, la moitié en entrée libre. Il y a des projections donc le 6 mars déjà en avant-programme à la médiathèque et il y a des projections donc à l'ENSAV, le mardi 8, le samedi 12 et le mardi 15, des grands films de qualité en entrée libre. En entrée libre également à la maison de quartier de Bagatelle. Parce que dans notre démarche, tout le monde doit bénéficier de la culture, demandant emploi, étudiants, etc. Et que l'aspect financier ne soit pas un obstacle pour accéder une culture de qualité. Si vous permettez, si vous m'autorisez à revenir sur les thèmes, j'aimerais parler un petit peu, donc la 8e édition, on jette un regard sur la condition des femmes au Proche-Orient et sur le combat pour l'émancipation. Alors, j'aimerais parler de film Trumpet in the Sky de Rakan Mayasi qui sera avec nous. Donc, ce film raconte l'histoire d'une jeune fille qui quitte l'adolescence, quitte l'enfance pour passer de l'autre côté de l'adolescence et qu'on va marier. Alors, elle est d'une famille pauvre. Elle est syrienne dans un camp. Elle est syrienne. Elle travaille dans un champ au Liban. Et là, il a toute la condition de mariage parfois qui se fait dans des conditions économiques qui sont difficiles. Alors, le titre du film en arabe et en français est beaucoup plus intéressant, « L'amour viendra demain ». Voilà. Et puis, il y a le film de clôture, un grand documentaire réalisé par Samar Al-Qadi qui raconte l'histoire, comment elle était en Égypte, lorsqu'on a commémoré la révolution égyptienne, elle a voulu témoigner un petit peu comment les femmes égyptiennes ont été agressées et comment elles se révoltent, comment elles mènent leur combat. C'est un film, un documentaire qui nous a scotchés. Parce que lorsqu'on a un comité de sélection et puis il y a des films où on hésite, là tout le monde a adhéré et tout de suite en disant il nous faut absolument ce film. Et Samah Al-Qadi sera avec nous pour parler du combat des femmes. Et on est fiers
en
de
Égypte,
ce film parce
coup,
que
notamment.
Les films sur la condition féminine ne sont pas, il n'y a pas beaucoup de films sur la condition féminine dans le monde arabe. Et voilà un qui raconte la rage des femmes et leur combat.
Et qui est un documentaire.
C'était un documentaire.
Ok, très bien. Il y avait un autre thème qui avait attiré mon attention, c'était celui de la mémoire, de l'histoire. Avec, alors là, il y a vraiment plusieurs, plusieurs manières de l'aborder et de le traiter. Il y a par exemple un petit court-métrage qui s'appelle « The Return of Osiris », qui est une sorte de... C'est quoi ? C'est un montage, une sorte de patchwork de films... d'extraits de films et de séries télévisées égyptiennes qui ont été produits entre 1976 et 2016 qui en fait, on va dire, témoignent de l'histoire du mouvement nationaliste arabe notamment, de ses luttes. Est-ce que tu veux dire quelques mots sur justement ce court-métrage et sur pourquoi vous l'avez sélectionné ?
Bien sûr, bien sûr. Alors oui, j'aimerais parler parce que bon, c'est un photographe et cinéaste.
Et d'ailleurs, on fait une exposition. Ça se répond pas mal, ouais. Il y a beaucoup de photographes, en fait, aussi.
Oui, oui. Alors, on fait aussi une exposition à l'ABC de ses tableaux. Ça s'appelle La mer morte. Ils sont deux photographes, lui et Issa Ghraib, donc, et Arif Masallah. Alors, le film, je reviens au film sur le retour d'Osiris. C'est un film qu'on a, un court-métrage qu'on a aimé. Parce qu'il raconte un moment important dans l'histoire du nationalisme arabe. Alors, mais avant d'entrer dans les détails, c'est important de dire que à cette époque-là, je vais peut-être citer une référence cinématographique. Il y a eu un film tout récemment.
T'inquiète, il y aura peut-être une ou deux personnes qui la comprendront. Il faut le faire.
Alors, il y a un film qui raconte l'histoire Looking for Umm Kulsoum. Umm Kulsoum qui a joué un rôle important dans le monde arabe. Et dans le film, il y a un personnage qui dit « Mais Umm Kulsoum n'appartient pas à l'Égypte, appartient au monde arabe. » On peut faire le parallèle avec Nasser, qui était le chef d'État à l'époque de l'Égypte. En disant « Nasser, dans le contexte du nationalisme arabe, n'appartenait pas seulement à l'Égypte, mais il incarnait un rêve, une utopie du monde arabe. » C'est pour cela que les gens sont étonnés en disant un jeune cinéaste palestinien qui fait un film sur Nasser, mais parce qu'à l'époque-là, Nasser incarnait tout un espoir. Donc ce jeune cinéaste a décidé de faire un montage. Alors, il y a la narration, c'est la voix de Nasser, parce qu'il perd la guerre en 67, il démissionne, et puis il va, le jeune cinéaste Issa Ghraib, avec beaucoup de talent, va prendre des extraits de moins de dizaines, quinzaines de films pour faire un montage. Et lorsqu'on regarde ce montage, on se fait piéger parce qu'on a l'impression que le tout fait un documentaire cohérent et vraiment très, très intéressant où on se fait piéger par cette narration et par aussi, c'est-à-dire, comme on est dans l'histoire, c'est probablement le dernier moment dans l'histoire du monde arabe où un chef d'État, quelles que soient ses qualités et ses défauts, par ailleurs, il dit « je démissionne » et la foule descend dans la rue pour dire « non, non, tu restes, tu vas continuer à mener ton combat ». Parce que par la suite, c'était exactement l'inverse, c'est-à-dire les gens descendaient dans la rue et les dictateurs dans le monde arabe tiraient sur eux. Donc c'est important de faire le parallèle et de constater que en 71, la mort de Nasser, c'est la mort. C'est là où on a enterré le nationalisme arabe. Et c'est tragique. Et par la suite, il y a eu des chefs d'État détestés par le peuple arabe au Maghreb, au Mashrek et ailleurs. Et lorsque le peuple descend dans la rue, on lui envoie les chars.
Ouais. Et donc en plus, cette projection, elle est entrée libre.
Oui, oui, oui. L'ensemble des projections à l'ENSAV, en entrée libre. Et là, peut-être je vais profiter parce qu'elle sera suivie par Night, qui est un film d'animation. Et c'est Ahmad Saleh, qui ne peut pas malheureusement être avec nous. C'est d'une poésie, d'un talent. Donc il faut absolument venir voir Night. Et comme après la nuit vient le jour et vient le soleil, ça va être Les Jambes de Maradona, un film très léger. Donc on joue des gamins qui cherchent à sélectionner lors des matchs de foot les cartes sur Maradona, etc. Voilà, c'est à ne pas louper, c'est à l'ENSAV.
Et du coup, sur ce thème de l'histoire et de la mémoire, il y a aussi un documentaire, là, j'aimerais que tu nous en dises quelques mots parce que je t'avouerai que la bande-annonce ne m'a pas donné plus d'informations. Enfin, je l'ai regardé, non, en même temps, je l'ai un peu parcouru un peu rapidement. Ce film, c'est Féodora de Judith Abensour. C'est un documentaire de 2021 qui retrace en fait l'ouverture d'un musée de la culture et de l'histoire de la Palestine à Ramallah en mai 2016. C'est un musée qui a été inauguré vide et qui le restera pendant plusieurs mois jusqu'à ce que se prépare la première exposition dédiée à la ville de Jérusalem. Et voilà, le film se déroule pendant cette période de transition, durant le chantier d'une ville rêvée, contrepoint d'une réalité politique qui rend de plus en plus hypothétique la perspective d'un futur État palestinien. Pourquoi est-ce qu'elle a, on va dire, quel était l'enjeu autour justement de la création de ce musée et de quelle manière, quel est le récit qu'en fait ce film?
Peut-être je vais utiliser une référence cinématographique, si vous permettez, si tu permets. Aujourd'hui, si vous me posez la question, où se trouvent les archives du cinéma palestinien? Tu vas être étonné par la réponse. Une grande partie des archives du cinéma palestinien se trouve dans les archives de l'armée israélienne. Et ça, c'est tragique. C'est pareil pour l'ensemble du patrimoine des Palestiniens, qui a été spolié, qui a été volé, etc., etc. Donc, il y a eu la volonté de faire un musée. Et on a construit un bâtiment hyper moderne, super. Et après, on dit, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Et dans le film, c'est raconté. Je ne vais pas raconter le film, mais juste souligner que, en disant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va ouvrir ce musée vide. On va inviter les gens. On va leur demander, venez voir le vide. Et à vous de revenir le lendemain, chacun avec un objet pour meubler ce musée qui est le vôtre.
Ah ouais.
Et je trouve ça à la fois touchant et à la fois triste. Bon, évidemment, le musée allait se développer par la suite pour proposer des expositions, etc., allait vivre. Mais n'empêche, il y a eu ce moment un petit peu difficile en disant, voilà, le musée est vide. Et il a été filmé au moment où il était vide, comme aussi la caméra de la cinéaste qui est allée filmer ce qui fut à un moment donné un parlement palestinien qui a été bombardé. Et ce lieu qui a été donc bombardé, qui s'est détérioré, est un petit peu l'image de la situation actuelle où il y a une autorité palestinienne, où il est difficile aujourd'hui, il a été difficile de faire émerger un État palestinien, et où il y a une autorité, se demande si elle a beaucoup d'autorité.
Et pour terminer, il y a un film documentaire de Marie Géniès de 2019 qui s'appelle Une mémoire contre l'oubli. C'est un film qui dure 35 minutes et qui raconte l'histoire de Odeh, chrétien, Jamila, musulmane, et Karim, juif, qui ne se connaissent pas et qui vivent tous les trois en Palestine sous occupation israélienne et qui racontent leur vie, leurs souvenirs, l'occupation, la prison, l'exil, mais aussi l'espoir. Alors, je sais pas pourquoi je me suis dit que ça parlait de la mémoire de l'histoire, mais il y a peut-être aussi, on va dire, des subjectivités qui se croisent dans la manière dont on raconte cette histoire-là. Bon, c'est peut-être pas le thème de ce film-là, d'ailleurs.
Le film, c'est la cinéaste, la jeune cinéaste est allée là-bas pour à la rencontre de la population et probablement elle souhaitait témoigner en disant la société palestinienne, la société là-bas tout simplement est riche, elle est composée, il y a plusieurs composantes au sein de cette société et ces composantes ont cohabité et continuent à cohabiter ensemble en paix. C'est une sorte de clin d'œil, en disant, bon, comme d'ailleurs dans d'autres films, il y a un film qui s'appelle Ave Maria. Alors dans Ave Maria, on est le Shabbat, et une voiture israélienne avec donc ses occupants israéliens s'égare dans le désert pour atterrir dans une zone palestinienne ou dans un couvent où il y a des bonnes sœurs palestiniennes qui ont fait un vœu de silence. Alors ça crée une situation burlesque, une situation amusante où les bonnes sœurs ne sont pas supposées parler. La famille juive qui s'est égarée a des problèmes pour communiquer, surtout si le Shabbat ne souhaite pas toucher le téléphone, etc. Le taxi israélien qui ne veut pas venir pour les sauver. Et tout ça, elle reflète un petit peu, peut-on vivre ensemble ou non? Et ça finit par un happy end remarquable. En ce sens, il y a une bonne sœur qui se rappelle qu'il y a une autre sœur.
Ouh là là, est-ce qu'on n'est pas en train de divulgâcher à tort et à travers?
Non, ça
ne
fait rien,
là.
Ce film est connu, mais pour encourager les gens à venir. Donc, on ne va pas parler du happy end. Mais il y a une happy end qui montre que c'est possible, que des communautés, que des musulmans, des chrétiens, des juifs, des arméniens, des arabes, etc., puissent habiter ensemble, en paix et en cohérence. Mm-mm. Voilà.
Et peut-être que... j'ai dit n'importe quoi. Ça me faisait penser au navet au cinéma français avec où c'est fait de manière ultra raciste et débile dans par exemple Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Mais bon, rien à voir. Ok, je n'ai rien dit. Pour terminer, puisqu'il nous reste 5 minutes avant de nous quitter, faut savoir, tu as commencé à en parler un petit peu, mais il n'y a pas que des films de ciné. Il y a aussi une expo photo. Il y a aussi peut-être
une lecture
concert à la CAFPO mercredi. Mais c'est ce mercredi. Ah non, c'est mercredi prochain à 18h30 par Sayed Kachoua, lecture création qui s'appelle Les Arabes dansent aussi. Voilà. Est-ce que tu veux en parler un petit peu de cette lecture?
Oui, donc dans chaque édition, on est content de proposer au public toulousain un romancier palestinien et aussi faire lecture de ses romans. Et c'est un livre, donc c'est Sayed Kachoua, Les Arabes dansent aussi. Ce livre m'a scotché il y a quelques années lorsque je l'ai lu parce que la démarche de romancier, c'est plus ou moins autobiographique. Parce qu'il vivait en Israël. Donc, c'était un citoyen de l'État israélien. Il a grandi dans l'État d'Israël, post-48, évidemment. Il dit, j'ai tout fait pour ressembler à un juif. Et tout a foiré. Je ne vais pas raconter donc, ce qui va être lu, mais le romancier lui-même qui a tout fait pour... D'ailleurs, le roman est écrit en hébreu et non pas en arabe. Pour dire à quel point le romancier lui-même a cherché à s'intégrer et que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a quelques années, a fini par craquer et quitter Israël pour aller aux États-Unis. Donc, venez entendre un extrait de roman « Les Arabes dansent aussi » de Sayed Kachoua. Ça sera à la CAFPO.
Merci. Donc du coup, petit récapitulatif, cette 8e édition du Festival Ciné-Palestine, elle commence lundi prochain, 7 mars, et elle dure une semaine, voilà, jusqu'au 15 mars. Alors, il me semble qu'au début, tout est à Toulouse, à peu près jusqu'à samedi 12, et puis après, voilà, ça se balade jusqu'à
dimanche. C'est un parallèle.
13. Ah oui, c'est en parallèle.
C'est en même temps.
Ok, pardon, je dis n'importe quoi. Et du coup, il y aura donc du coup des projections à Colomiers, à Auch, Aucamville, Blagnac, Auziel, Bressol, Cahors, Figeac, Tournefeuille, Préissac, Albi. Voilà. Et avec des rencontres. Est-ce que tu veux peut-être parler... tu as commencé déjà à parler un petit peu des rencontres, mais peut-être qu'on n'a pas parlé de toutes les rencontres avec les réalisateurs. Peut-être qu'il y a des moments, des soirées que tu as envie de mettre un petit peu en avant.
Le mardi, notamment 8 mars, il y aura donc une rencontre autour du thème « Que peut faire le cinéma ?» avec Samah El-Qadi, avec Judith Abensour et le critique de cinéma Tahar Chekhaoui, animé par Nadine Picodou. Et je pense que cette question n'est pas nouvelle, mais elle mérite d'être posée dans le contexte palestinien. Que peut faire le cinéma ? Voilà.
Eh bien, merci. Merci à toi en tout cas d'avoir partagé cette heure-là avec nous. Et puis, du coup, on se retrouvera à partir de la semaine prochaine dans les différents cinémas toulousains qui sont partenaires de Ciné Palestine. Donc, Le Cratère, l'American Cosmographe.
Oui, l'ABC et la Cinémathèque. Alors, est-ce que j'ai 30 secondes ? Alors, vous trouvez le programme partout. Mais si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à consulter notre site ciné-palestine-toulouse.fr. Et là, vous trouvez le programme sur votre ordinateur.
Merci beaucoup.
De rien.
عسى الله يعود وعلى أرض الأحباب.